Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Chacun d'entre vous, j'ai envie de souhaiter une très très bonne journée. Et oui, la météo prévoit qu'elle sera plutôt ensoleillée, alors on attend. L'important, c'est qu'elle le soit dans votre cœur et dans votre tête. Et je me souviens d'une chanson d'Yves Montand qui disait « Trouver belle la vie quotidienne, ça peut vous paraître innocent, mais la joie des autres, c'est la mienne et ça me rapporte 100%. » Ne cherchez pas, c'est à cause de ça, j'ai du soleil plein la tête et du printemps plein mon cœur. Dès que je chante une chansonnette, j'ai de la joie et du bonheur. Et bien voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite d'être dans la même optique.
Garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout, malgré les douleurs d'hier, tout à coup on espère. Au hasard d'un jour, pareil aux autres, on se sent moins lourd, la vie nous porte. Un regard de lumière, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous, je n'espérais que vous. J'ai marché si longtemps, je viens de loin. Le monde était grand et long le chemin. N'attendez que vous, ni l'autre que vous. J'attendais votre voix, vos soupirs. Donnez-moi votre air qu'enfin je respire. On garde un peu d'art au fond de l'âme. Le temps dévore, éteint la flamme. Jusqu'à ce jour de hasard, et soudain, on repart. On remplit nos yeux d'autres couleurs. Est-ce qu'on y voit mieux? Est-ce qu'on est meilleur? Quand tout redevient si clair. Un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous. Je n'espérais que vous. J'ai marché si longtemps. Je viens de loin. Le monde est trop grand, trop long le chemin. J'attendais votre voix, vos soupirs. Donnez-moi votre air, qu'enfin je respire.
votre air qu'enfin je respire. Je n'attendais que vous. Oh, je n'attendais que vous.
En tout cas, c'est gentil de me le dire. Hein. C'était Garou. Alors, dans l'air du temps aujourd'hui, pour Saltant sur la planète, j'accueillerai Daniel Samier, apiculteur récoltant à Anzin, qui complétera sans doute tout ce que nous avons déjà pu dire sur la disparition des abeilles domestiques. Et puis, pour notre rubrique Jardiner autrement, Monique Farda, présidente de l'association JAS, c'est-à-dire Jardin, Art et Soins, nous expliquera que nous pouvons contribuer à apporter un certain bien-être à des personnes atteintes de maladies neuro-végétatives en prenant un grand plaisir à visiter un beau jardin. Et puis enfin, pour notre dernière rubrique Focus, aujourd'hui, il sera orienté sur cette maladie qui se manifeste notamment par une dépigmentation de la peau, c'est-à-dire le vitiligo. Souvenez-vous, on disait que Michael Jackson se faisait blanchir la peau. En fait, il souffrait de vitiligo et c'est le docteur Guy de Regnaucourt qui nous en dira plus sur cette dermatose grave. Bonne matinée à vous à l'écoute de Radio Plus.
Une autre, chaque fois, voulez-vous l'amour? Aimez-vous qu'on vous montre du doigt? Voulez-vous l'amour, sachant que ça tient chaud, ça tient froid? Voulez-vous l'amour? Souhaitez-vous un jour, quand le soleil se lève quelquefois, retrouver le goût du sommeil ou d'un beau feu de joie? Voulez-vous la mort à ce jeu où vous perdez chaque fois? Voulez-vous l'amour? L'amour le plus beau des poèmes qui pourrait bien rimer avec nous. Mais que voulez-vous? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous un autre problème? Voulez-vous l'amour? L'amour fou qui rend bleu, qui rend blême? Voulez-vous un jour me regarder les yeux pleins de haine? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous un jour, quand le soleil dans la mer se noie, y peser le pour et le contre pour la dernière fois, en vous laissant faire, vous laisser envahir par la joie? Voulez-vous l'amour? Oiseaux de proie, voulez-vous l'amour? Le grand chaud, le grand chemin de croix. Voulez-vous l'amour? Reste-t-il de la place dans vos bras? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous l'amour? Voulez-vous l'amour?
parlions médecine tout à l'heure, puisqu'à la fin de cette heure, le docteur Guy de Rognaucourt nous éclairera sur cette maladie qu'est le vitiligo. Et nous aurons donc l'avis d'un vrai médecin. Et oui, parce que figurez-vous que nous aurons peut-être affaire un jour à un robot médecin. Et c'est notre petite enquête de cette semaine pour vous dire que Xiao Yi, qui veut dire petit médecin, a ingurgité 53 ouvrages, 400 000 rapports et documents et plus de 2 millions de dossiers médicaux et visionné 1 million d'images pour décrocher en tant que robot son diplôme de médecin. Lors de l'examen qu'il a résolu en une heure au lieu de 10, il a su raisonner sur des cas réels. C'est bien sûr une première mondiale et il se trouve qu'à plus ou moins brève échéance, eh bien les médecins humains pourraient se voir assisté de cette intelligence artificielle pour établir des diagnostics et proposer des traitements. Allô docteur, combien je vous dois docteur?
Hypnose, avec moi en osmose, le yoga, c'est pour moi ma façon de méditer. Je peux planer, m'envoler, assis ou allongé. Je veux pas qu'on m'aime, je veux juste que l'on m'écoute, comprendre mes problèmes, mon stress, mes doutes. Être présent, être là, me veillant. Docteur, faites ça pour moi. Combien je vous dois? Il fait gris, il fait froid. En plus, le ciel est bas. Je suis pollué, exténué. Quand je vous parle de tout ça, c'est que je suis pas le seul dans ce cas-là. C'est pas tout ça. Combien je dois? Je voudrais qu'on m'aide, même si la note est raide. L'important, c'est de sauver l'humanité. Manger bio, être zen, écolo. Pour vous docteur, ça va, combien je dois? Combien je dois? Oh. Cash avec un chèque sans nom, sans date. Vous ne faites pas crédit au cœur brisé. Désespérés qui viennent vous consulter, on fait comme ça. Oh, combien je dois? Combien je dois? Combien je dois? Ah, tant que ça.
Monsieur Eddie Mitchell sur Radio Plus.
Ça danse sur la planète. Oh, le drôle, de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, lors des missions précédentes, nous avons déjà beaucoup parlé des abeilles et notamment des abeilles sauvages avec Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, puisque leur sauvegarde est un des fers de lance de cette association qui a d'ailleurs consacré une semaine entière à leur protection.
en semant notamment des fleurs, en leur procurant un habitat sur les trèmes, en répertoriant, etc., etc. En effet, le déclin touche l'ensemble des abeilles sauvages comme les autres pollinisateurs et comme les abeilles mellifères, c'est-à-dire les abeilles domestiques. Alors, il est vrai que la disparition des abeilles mellifères est davantage médiatisée, et d'ailleurs, c'est une bonne chose car elle attire l'attention du public sur un problème écologique majeur, mais surtout, ne nous y trompons pas, cette population qui s'effondre n'est que la partie visible d'un problème qui touche l'ensemble de la biodiversité. Daniel Samier, bonjour.
Oui, bonjour Martine.
Alors, vous êtes apiculteur récoltant au Rucher des Hauts-de-France, non loin d'ailleurs du joli marais d'Anzin. Apiculteur passionné, on en reparlera. Daniel, les abeilles mellifères qui accomplissent un travail laborieux depuis près de 40 millions d'années, c'est quand même quelque chose. Or, malheureusement, elles sont actuellement menacées de disparition, purement et simplement. Abeilles sauvages, abeilles domestiques, même combat, Daniel.
Bien évidemment, c'est le même combat, puisque l'abeille domestique est la sentinelle de l'environnement. C'est-à-dire que si elles disparaissent, nous, apiculteurs, on est tout de suite prévenus. Hein, par l'observation, les abeilles sauvages, bon, ça va mourir dans un tronc, on ne le verra pas et ça sera la catastrophe quand on sera carrément dans le mur. Donc là, nous, c'est un cri d'alerte, parce que c'est vraiment inquiétant ce qui se passe.
Alors, eh oui, en France et dans le monde, les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme, car au fil des années, la mortalité augmente. Beaucoup de pertes chez vous, dans votre rucher ?
Ben ici, au Rucher des Hauts-de-France, Anzin-les-Béthunes, j'ai 80% de pertes. On peut faire l'analyse. C'est la première fois que j'ai 82%, puisque habituellement je tourne autour de 20 et 30% dites de pertes normales sur des essaims faibles, etc. Mais là, effectivement, j'ai 80% de pertes. C'est une catastrophe.
En effet, 80%, c'est énorme par rapport... Alors, bon, ce n'est pas le premier volet dans l'air du temps consacré aux petites butineuses, sujet récurrent. Hein. Alors, tout a été évoqué, les néonicotinoïdes, les pesticides, les herbicides, l'industrialisation des ruches, la disparition des fleurs. En effet, on comprend très bien, sans fleurs, pas de pollen. Alors on a invoqué aussi le frelon asiatique, le réchauffement climatique. Alors Daniel Samier, vous êtes un grand passionné, une passion que vous partagez d'ailleurs avec votre épouse Mauricette. Donc il est important de le préciser parce que justement en tant que passionné, vous ne faites pas n'importe quoi. Vos abeilles dont vous partagez presque la vie sont très protégées. En plus, elles sont dans un milieu extrêmement favorable, c'est-à-dire un jardin plein de fleurs, et dans lequel les produits phytosanitaires sont complètement exclus. La tonte est presque interdite, on va dire. Beaucoup de soins. Alors, cette disparition chez vous, comment l'expliquez-vous ?
Bon, écoutez, moi je l'explique par rapport à mon expérience ici. Je pense que l'impact le plus fort sur la disparition des abeilles, c'est bien évidemment les pesticides. Puisque si, bien évidemment, ici sur Anzin-Béthune, ce sont deux mairies qui sont à zéro pesticide. Hein. Donc c'est tout en leur honneur déjà. Mais si on trace un cercle de 3 km autour de mon rucher, effectivement, j'ai des champs qui... ils peuvent aller butiner sur les champs de Foucreuil et puis sur Essart. Bon. Moi, comment j'explique ça par rapport à mon expérience ? Tenez, je vous perds pas l'expérience que j'ai subie ici à Boulogne-sur-Mer, où 100% de ruchers a été tué. Le rucher de Boulogne-sur-Mer était exactement à Bactin, à côté d'un beau champ de maïs. Bon, souvent, on pense que les abeilles ne butinent que des fleurs. Mais non. Non, elles vont pas butiner que des fleurs. Elles vont aussi les chercher de l'eau. Donc, je vais vous parler brièvement de la gutation. Et, bizarrement, ce risque est minimisé dans toutes les études d'impact. C'est vraiment étrange. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. La gutation, c'est l'exsudation de gouttelettes de sève par les plantes. C'est-à-dire qu'une plante, c'est quelque chose de vivant. Dès qu'il y a un stress, elles vont exsuder. Donc, une plante qui a un herbicide à l'intérieur, cette sudation automatiquement est toxique. C'est du poison. Mais l'abeille va voir ça comme une goutte d'eau et éventuellement un peu sucrée par la sève. Ils vont venir le ramener à la ruche. Donc, en 20 minutes, l'abeille meurt. Alors, soit qu'elle meurt dans le champ, soit qu'éventuellement elle n'a pas passé les 20 minutes, dans 5 minutes elle peut revenir à son rucher, mais elles vont être exfiltrées par les sentinelles. Les sentinelles, automatiquement, vont les expulser dehors, et c'est comme ça que j'ai trouvé des milliers d'abeilles mortes en dessous de la ruche. Mais il se passe une chose, c'est que les sentinelles n'ont pas l'habitude d'un tel afflux de produits toxiques. Donc il y en a quelques-unes qui vont rentrer dans la ruche et partager cette alimentation mortelle avec les autres abeilles. On appelle ça la trophallaxie, c'est-à-dire qu'une abeille va nourrir de bouche en bouche par des centaines de travailleuses, et aller nourrir les nymphes, les bébés qui allaient dans les cellules. Automatiquement, la ruche est complètement polluée et complètement toxique. Bon, il y en a quelques-unes qui vont résister, mais seulement les nymphes n'en vont pas arriver à maturation, et automatiquement, nos abeilles d'hiver qui devaient passer les 3 mois pour passer à la saison suivante ne seront pas là. Et c'est comme ça qu'on retrouve une centaine ou 200 abeilles en rond sur chaque cadre, partout en France, partout. C'est pas spécifique ici, et automatiquement les essaims sont morts. Bon, quelle est la solution? Ben, la solution, c'est de tout nettoyer ou tout rouler, madame. Voilà où on en est à l'heure actuelle.
Alors, justement, Daniel Samier, bon, les solutions, s'il y en a, il faudrait quand même les appliquer très vite, car on peut rappeler que l'abeille nous est indispensable, permettant à 80% des espèces végétales de notre planète de se reproduire. Elle génère une forte valeur économique, hein, c'est-à-dire à peu près 153 milliards de dollars par an, et ce grâce à la pollinisation. Donc si elle venait à disparaître, la mortalité mondiale augmenterait de 3%. La mortalité humaine, hein, j'entends, augmenterait de 3%, soit jusqu'à 1,4 million de morts supplémentaires par an. Ça, c'est selon une étude publiée par une revue médicale britannique. Il y a donc, Daniel Samier, il y a donc urgence.
Il y a urgence. Moi, personnellement, bon, je ne parlerai pas au nom de tous les apiculteurs, nos ministères de l'agriculture qui pensent à ce problème, mais il faut interdire, non pas 3 néonicotinoïdes, il faut interdire tous les néonicotinoïdes, absolument. Moi, personnellement, je ne préconise pas l'interdiction ou le retrait total des pesticides utiles, puisque lorsqu'il y a invasion d'une plante invasive qui peut venir mettre en péril le bon équilibre de la nature, effectivement. Mais ce que je veux, c'est que à chaque utilisation, il faut que ça soit responsable et mieux géré, en tenant compte de l'impact des produits chimiques sur tout l'écosystème, que ça parte de la fleur, des terres qui sont maintenant stériles, complètement stériles, mais à coup de glyphosate, nos agriculteurs travaillent. Je ne mets pas les agriculteurs non plus sur le dos. Je dis qu'éventuellement, qu'il faut savoir comprendre ce qui se passe. Il faut qu'ils soient responsables de savoir que lorsqu'on utilise des glyphosates, on tue toute la vie dans l'air, dans le sol et dans nos nappes.
Oui, parce qu'on tue aussi dans la terre. Vous parlez des fleurs qui n'ont plus de nectar ni de pollen, mais le sol devient aussi complètement inerte, on va dire. Il n'y a plus de vie. Donc,
non, il n'y a plus de vie, non. Forcément. Il y aura de la vie uniquement pour ceux qui vendent des engrais, apparemment.
Tout à fait. Mais on parle du glyphosate, on accuse beaucoup le glyphosate, mais je crois qu'ils sont quand même, c'est ce qu'on disait avec Bertrand Trinel, et puis ils sont quand même en train de préparer d'autres produits phytosanitaires, peut-être encore plus dangereux que le glyphosate.
Absolument, j'ai vu des études où il y aura des produits qui seront 2000, 3000 fois plus puissants que le glyphosate. Décidément, l'escalade, ça devient ridicule. Il est temps d'arrêter tout ça.
Il est temps d'arrêter tout ça parce qu'on va finir par mourir de faim.
On va finir par mourir de faim. 80% de l'alimentation humaine vient des pollinisateurs en général, dont l'abeille domestique.
Hein. Tout à fait.
On parle aussi des papillons, des libellules, des coccinelles. On en voit de moins en moins. Là, on utilise ces produits, il faut arrêter. Quoi.
Alors justement, les abeilles sont irremplaçables puisqu'elles se nourrissent de pollen et de nectar de fleurs. Sans fleurs, pas de pollen. Sans pollen, pas d'abeilles et vice-versa. Sans leur, nos champs, nos forêts, nos vergers qui disparaîtront à leur tour. Aussi, oui. Plusieurs robots pollinisateurs sont en cours de développement et d'expérimentation. Alors, qu'en pense l'apiculteur passionné que vous êtes et surtout l'ingénieur que vous étiez ?
Écoutez, l'assistant ingénieur en tant que technique trouve intéressant de faire des robots, puisque c'est utilisé dans les centres hospitaliers depuis longtemps, ces robots. Mais ce qui m'inquiète, ce qui me fait peur, c'est que s'est fait éventuellement déjà pour prévoir la disparition de nos insectes pollinisateurs. Et ça, c'est inquiétant. Vous savez, le miel commence par une histoire d'amour entre deux fleurs. L'abeille va les butiner, c'est une évolution de plusieurs millions d'années. Comment un robot va pouvoir analyser, voir que cette fleur, par rapport à ses couleurs, va pouvoir attirer l'insecte, par rapport à son nectar, parce que une abeille sent et voit. Non, il faut arrêter, ça devient ridicule. Je pense que ça ne peut servir que de très gros intérêts derrière.
Alors justement, puisque vous parliez de milieu hospitalier, puisque vous venez d'un milieu hospitalier, Daniel, justement, vous dites, encore une fois, on soigne les conséquences, mais on ne soigne pas les causes. C'est-à-dire que là, on prévoit déjà que l'abeille va disparaître.
Absolument, c'est vraiment inquiétant.
C'est un petit peu, finalement, c'est un petit peu comme pour le cancer. On soigne le cancer, mais on ne soigne pas en amont, on ne soigne pas les causes du cancer.
Absolument, c'est-à-dire que on préfère faire une chimiothérapie au lieu de faire du préventif avant pour éviter justement d'en arriver là.
Tout à fait. En tout cas, Daniel Samier, merci. Alors, on rappelle que votre rucher se situe à Anzin, le rucher des Hauts-de-France, et que votre miel est parfaitement sain, pur, sans aucun additif.
Sans aucun additif, absolument. Et on me pose souvent la question combien je peux faire de miel. Je dis, écoutez, je peux faire 0 kg par an, comme plusieurs centaines de kilos. Je suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité.
Merci Daniel. Et toutes nos amitiés à Morissette, puisque vous êtes éleveur en couple.
C'est ça. On travaille ici en couple. Morissette met en valeur nos produits et s'occupe surtout de tout ce qui est apithérapie.
Merci. À l'occasion, on pourra en parler avec elle, de l'apithérapie.
Elle se fera un plaisir d'intervenir.
Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup, Daniel, et très très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Chaque fleur s'ouvre à son passage. Et il sépare les roses enfants. Ses yeux font s'enfuir les nuages. Il a connu plus de 1000 printemps. Et Noé tout seul sur sa colline au vent goûte le miel que lui font ses abeilles. Et Noé qui ne voit plus passer le temps, en chantant fait lever le soleil. En sage et en bon patriarche, il sait quand viendra le déluge. Il s'endort auprès de son arche. Il sait que l'homme a besoin d'un refuge. Et Noé tout seul sur sa colline au vent goûte le miel que lui font ses abeilles. Et Noé qui ne voit plus passer le temps, en chantant fait lever le soleil. Et Noé tout seul sur sa colline au vent goûte le miel que lui font ses abeilles. Et Noé qui ne voit plus passer. En chantant, fait lever le soleil.
Et Monique Farda est aussi descend dans son jardin tous les jours. C'est vrai que dès que le soleil se lève, et c'est vrai que les roses de Monique Farda s'ouvrent aussi sur son passage. Alors chaque année, lors d'un week-end, Monique Farda accueille le public dans son jardin au parfum de rose. Et d'ailleurs, dans une émission précédente, Monique n'a pas hésité à nous donner quelques conseils pour avoir de beaux rosiers. Attention, toujours de façon naturelle et sans traitement phytosanitaire. Monique Farda, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors le week-end dernier, vous avez donc ouvert les portes de ce si beau jardin de l'eau bio de 16 000 mètres carrés pour laisser les visiteurs plonger dans cet univers fait de massifs de roses, toutes plus odorantes les unes que les autres. Et avec eux, vous avez partagé bien sûr votre passion pour ces fleurs qui restent des reines et qui existent dans toutes les couleurs et presque tous les parfums. Mais surtout, en offrant au public ces moments de sérénité, vous contribuez aussi à l'amélioration de la prise en charge du handicap cognitif, un geste généreux dont vous allez nous expliquer les tenants et les aboutissants. Alors Monique Farda, votre jardin de l'eau bio situé à La Couture fait partie de ceux qui ouvrent leurs portes chaque année pour soutenir l'action de jardin, art et soins.
Oui Martine, mon jardin est ouvert un week-end par an au profit de JAS, c'est-à-dire que les sommes récoltées avec les entrées sont intégralement reversées à l'association. L'argent récolté sert à aider à la création de jardins de soins dans des établissements qui accueillent des malades atteints de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou l'autisme. En fait, ces établissements, ça peut être des EHPAD ou des établissements spécialisés. J'ai parlé de jardins de soins. Parfois, on parle de jardin thérapeutique, mais nous, on préfère utiliser le terme de jardin de soins parce que le jardin, c'est pas une thérapie.
Alors,
en fait, oui.
Ah non, allez-y.
Oui, donc j'allais dire, le jardin de soins permet d'apporter un peu de mieux-être, un peu de bonheur aux résidents en éveillant les sens, bon, le parfum d'une fleur, le bruit du vent dans le feuillage, etc., ou rappel d'un souvenir lié à un jardin, enfin bon, des choses comme ça.
Oui, en fait, c'est un petit peu, vous dites, c'est pas une thérapie, mais c'est un petit peu comme l'animal peut apporter dans les EHPAD ou dans les établissements un petit peu de bien-être. Voilà.
Un peu de mieux-être, c'est ça, c'est le but.
On comprend donc que l'objectif principal de ces journées, qui, rappelons-le, ne sont pas aux mêmes dates pour tous les jardins, eh bien, cet objectif reste ciblé sur l'amélioration de la prise en charge du handicap cognitif lié à la maladie ou alors à l'avancée en âge. Mais justement, quelles sont les actions menées par cette association JAS ?
Oui, enfin, vous avez dit que les dates d'ouverture ne sont pas les mêmes pour tous, parce que chacun choisit sa date en fonction de la période qui lui convient. Souvent, ça correspond à la période où le jardin est plus épanoui, mais bon, ça peut être pour d'autres raisons. Pour récolter de l'argent, on a trois types d'actions. La première action, bon, c'est celle qui est la plus visible de tous et qui touche le plus de gens, c'est l'ouverture des jardins des adhérents. Dans beaucoup de jardins, le prix de l'entrée est de 3 euros par personne. On peut également collecter de l'argent en organisant un concert ou un spectacle. On l'a déjà fait, on doit en principe le renouveler cette année. Et il y a une troisième source qui est de recevoir des dons de mécènes.
Alors, Monique Farda, en tant que présidente de cette association Jardin Art et Soins qui contribue à créer un espoir thérapeutique, vous pouvez peut-être nous en évoquer la genèse.
Oui, alors JAS a été créé en 2010. Il s'agit d'une association nationale doublée d'un fonds de dotation, avec des antennes dans différentes régions, Bretagne, Rhône-Alpes, Île-de-France, il y a pas mal de régions. JAS Nord-Pas-de-Calais a rejoint l'association en 2011, puis est devenue JAS Hauts-de-France en intégrant la Picardie quand les régions étaient regroupées. Mais à la différence des autres régions, qui sont simplement une antenne de JAS nationale, nous sommes une véritable association. C'est important pour nous, car on voulait avoir une certaine autonomie, tout en gardant les principes de JAS. Cela nous apporte comme avantage que nous soutenons des établissements en région, c'est-à-dire que les donateurs ont la certitude que l'argent collecté est utilisé localement. En 2018, nous aidons le jardin de soins du foyer des Webb à la Bassée et les pattes de l'Étrenne.
Alors, je suppose que chaque année, Monique, des propriétaires de petits écrins de verdure rejoignent votre association. Alors, y a-t-il des conditions établies, soit dans la surface, l'agencement, l'entretien du jardin ou bien, ou à côté, hein, je sais pas, j'en oublie peut-être.
Des jardins, effectivement, nous rejoignent régulièrement. Cette année, on a eu un nouveau jardin. Et l'an prochain, on doit également être rejoint par un autre. Et bon, ce qu'on voudrait, c'est faire venir un maximum de propriétaires. Et bon, je dis à vos auditeurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. La surface du jardin n'a aucune importance. On a un jardin de quelques centaines de mètres carrés, un autre fait plusieurs hectares. La seule condition, c'est d'être passionné et prêt à partager sa passion. Il faut aussi être motivé pour faire progresser l'association. Et en fait, il faut avoir à l'esprit trois axes, c'est-à-dire jardiner, faire visiter son jardin et penser à l'aide que l'on peut apporter aux établissements.
Et puis, je suppose aussi avoir un jardin sans produits phytosanitaires, comme le vôtre.
Oui, enfin, ça n'est pas une condition. On ne demande pas, aux propriétaires de jardin, est-ce que vous utilisez quelque chose ou pas. Bon, les gens vont certainement nous répondre très très peu, mais je ne jurerai pas que tous n'en placent strictement rien. Enfin, moi, c'est mon cas, de toute façon.
Alors, Monique Farda, combien de jardins recense actuellement votre association et d'ailleurs, existe-t-il un guide donnant leur localisation, leur description et éventuellement les jours durant lesquels il est possible de les visiter et de se joindre donc à l'action des propriétaires, des bénévoles et des jardiniers que vous êtes tous, en apportant une contribution par le prix d'entrée qui, vous l'avez dit, reste faible, hein, à une association qui se dévoue finalement pour une noble cause. Alors combien êtes-vous ?
Cette année, on était 17, donc Jardin Hauts-de-France, et on ajoute à ça, si vous voulez, les 5 pépiniéristes locaux régionaux qui nous soutiennent dans nos actions. Et vous parlez de guide, on a eu un guide papier national jusqu'en 2016, ça recensait, c'est un petit livret qui recensait tous les jardins région par région, mais il a été supprimé pour des raisons financières. Et il existe toujours un guide virtuel, donc sur www.jardinrso.fr. Et en JAS Hauts-de-France, on édite un flyer avec la liste des jardins, adresse, numéro de téléphone et date d'ouverture. Et on le distribue lors d'événements fêtes des plantes, comme la fête des plantes de Locon, ou alors on les distribue aussi lors de la visite de nos jardins.
D'accord. Donc, mais de toute façon, on peut voir les dates et les lieux, tout ça sur Internet. Il suffit de taper dans Google ou un autre moteur de recherche. Voilà. Il suffit de taper jardin. Art et soins. Voilà, d'accord. Alors, au cours de ces ouvertures, je suppose que vous échangez beaucoup avec les visiteurs. Et chez vous, Monique Farda, dans votre jardin de l'Aubieu à la Couture, beaucoup de questions, bien sûr, autour de la rose. Mais peut-être pas que, peut-être que vous parlez aussi d'autre chose.
L'ouverture du jardin, de toute façon, c'est toujours l'occasion d'échanger avec les visiteurs. Bon, chez moi, comme le jardin est ouvert au moment de la floraison des roses non remontantes, beaucoup de questions se rapportent aux roses. Et souvent, ce sont des questions qui sont, en fait, c'est toujours un peu les mêmes questions, de toute façon, qui reviennent. Ce sont des questions concernant l'histoire de la rose. Qu'est-ce qu'une rose ancienne? Qu'est-ce qu'une rose gallique? Puisqu'en fait, bon, je mentionne que j'ai tant de roses anciennes et dont tant de galliques. Donc, les gens se posent la question. J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a aussi des questions sur la taille des rosiers. Quand je les taille? Comment je les taille? Parfois, on me demande, bon, ça c'est toujours un peu drôle, pourquoi j'enlève pas les fleurs fanées sur les rosiers, parce que c'est sûr que les gens, on leur a tous appris qu'il faut absolument enlever les fleurs fanées, que c'est très important. Donc, bon, j'explique pourquoi je le fais pas. Aussi, les gens, ça c'est de plus en plus, les gens veulent avoir des adresses pour l'achat de rosiers, parce qu'en fait, ils savent pas souvent où s'adresser. Parfois, c'est pas sur les rosiers, c'est d'autres plantes. Ils ont vu une plante dans le jardin qu'ils trouvaient jolie, ils demandent ce que c'est, ou ils peuvent la trouver, enfin voilà. Mais on a aussi un certain nombre de visiteurs qui viennent pour soutenir JAS. Même, il y a des gens qui, en fait, qui viennent tous les ans parce que, ben, ils apportent leur obol, si vous voulez. Et bon, ça peut être parfois des gens qui sont confrontés, à la maladie d'Alzheimer d'un proche ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui connaît son EHPAD. Et en fait, cela nous pose des questions sur l'association.
D'accord. Monique, merci. Donc, message à nos auditeurs, dans votre région ou ailleurs, il existe une multitude de jardins qui sont des petits paradis et dont vous ne connaissez pas l'existence. Alors, pourquoi ne pas aller les explorer, s'y détendre, voire s'y ressourcer, tout en vous associant, à une bonne cause pour un tout petit don contributif, on va dire, à l'entrée. Et puis, les rencontres avec les jardiniers sont toujours enrichissantes et passionnantes, n'est-ce pas, Monique? Monique Farda, présidente de cette belle association. Merci à vous, Monique.
Oui, merci Martine. Et puis, ben, j'ajouterai que, surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. on demande que ça, être de plus en plus nombreux et voilà, faire progresser les choses dans des établissements qui sont souvent bien tristes.
Tout à fait. Merci, Monique.
Merci.
Qu'elle soit des œillets de Nice, des roses de Baccarat, qu'elle soit tulipe, narcisse, marguerite, lilas, qu'elle soit modeste fleur des champs, ou qu'elle soit plante verte, achetée ou offerte, ou les deux en même temps. Qu'elle nous arrive en bouton, ou les pétales grands ouverts, que je les mette sans façon dans un humble pot de terre, ou dans le vase en cristal, celui que l'on dit de bohème, dans un tout autre, c'est égal, c'est toujours le même problème. Chez nous, les fleurs ne tiennent pas, chez nous, les fleurs ne tiennent pas, ne tiennent pas. Nous n'avons pas la main verte, pas la patience peut-être, pour les connaître il faut du temps, c'est un peu comme avec les gens. Il faut savoir que l'une souhaite.
Georges Chelon sur Radio Plus. Alors, c'est aujourd'hui la journée mondiale du vitiligo. Et oui, la rumeur, méchante rumeur, disait que Michael Jackson se faisait blanchir la peau. En fait, il souffrait de vitiligo. Lorsqu'il a commencé à chanter, sa maquilleuse professionnelle utilisait un maquillage marron pour cacher les petites taches blanches qu'il avait à cette époque-là. Ensuite, le chanteur a commencé à couvrir son corps de plus en plus, notamment ses mains et ses poignets. Quand il sortait en public, il portait des gants qui montaient très haut, des manches longues ou des vestes. Et avec les années, le vitiligo est devenu plus agressif et des parties de plus en plus larges de son corps devenaient blanches, comme sa poitrine. L'abdomen, le visage et les mains de Michael Jackson sont devenus presque complètement dépourvus de couleurs. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale du vitiligo, voulue justement par les fans de Michael Jackson, et on en parle car c'est seulement la deuxième édition, donc à faire connaître. Donc, docteur Guy de Rognecourt, bonjour.
Bonjour.
Alors, vitiligo, c'est quoi cette maladie qui touche quand même 1 à 2% de la population mondiale? Et alors, comment se manifeste-t-elle?
Alors, le vitiligo, c'est donc une maladie de la peau qui est une dépigmentation partielle au départ de la peau, avec toute localisation sur le corps humain, depuis le visage, les membres, jusqu'au tronc, l'abdomen, etc. On appelle ça, en fait, médicalement, la leucodermie, ou achromie, absence de coloration. Cela vient du mot latin vitulum, qui veut dire tache blanche. Et bien sûr, comme vous l'avez dit pour Michael Jackson, cette tache blanche, elle peut s'agrandir et devenir trop importante.
Alors, dépigmentation de la peau, on peut préciser que ce n'est pas une maladie qui touche essentiellement les peaux brunes, hein, pas seulement. Mais en connaît-on les causes et y a-t-il des facteurs déclenchants?
Alors, les causes, on les connaît, on peut pas, je vous l'expliquerai après, les soigner. Alors, en fait, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps attaque lui-même les cellules colorantes de notre peau, qu'on appelle les mélanocytes. Donc, cette réaction immunitaire par auto-anticorps, comme on dit, entraîne la mort des cellules pigmentaires, les mélanocytes, ou un mauvais fonctionnement de ceux-ci, voire ce qu'on appelle la délocalisation, c'est-à-dire que les mélanocytes qui sont sous le derme apparaissent au niveau du derme, et là, ils ne sont plus actifs. Alors, les facteurs déclenchants, c'est le stress, le choc psychologique, affectif, les frottements des vêtements, les produits toxiques, et le soleil. Trop de soleil chez les gens fragiles peuvent entraîner un vitiligo. Et on a enfin des facteurs génétiques, hein, qui entraîne, si vous voulez, une augmentation, je vais être un peu trop compliqué, mais je vais résumer, du stress oxydatif qui détruit les cellules, hein. Et puis on a eu quelques causes neurologiques, quelques causes virales. Il faut savoir que souvent la maladie intervient avant l'âge de 20 ans.
Alors, docteur, peut-on en guérir? C'est toujours la question.
Il n'y a pas de guérison. Parce que on sait maintenant qu'il y a des facteurs génétiques, hein, il y en a 11 gènes qu'on a découverts, et que surtout il y a une inflammation qui est devenue chronique, hein, avec notamment l'action de facteurs inflammatoires qu'on appelle les TNF-alpha, excusez le dialogue médical.
Alors, mais on a bien compris, le vitiligo est une maladie certes, mais qui n'est ni infectieuse, ni contagieuse, ni douloureuse, mais on comprend très vite que le préjudice esthétique est souvent très mal vécu. Elle peut entraîner un certain rejet de la part de ceux qui ne savent pas, et puis tout ce qui dénature la peau, dénature l'individu, et il y a des gens pour qui le vitiligo est vécu comme un drame. Et je suppose, docteur de Rognaucourt, que la prise en charge d'un patient se doit être avant tout psychologique.
Bien sûr, enfin, et psychologique, et je dirais médical ou chirurgical, mais il existe une association, hein, on va dire, comme pour l'Alzheimer, France Vitiligo, qui s'occupe de ces gens-là. Alors ces gens, bien sûr, sont perturbés, puisque leur peau se décolore, et j'ai oublié de vous dire que ça arrive souvent au niveau d'autres maladies immunitaires, qui sont la thyroïdite, les troubles surrénaliens, le diabète, ou les inflammations articulaires comme la polyarthrite et le lupus. Pour retenir tout ça, parce qu'on va approcher de plus en plus d'une maladie maintenant qu'on va connaître. Alors, il faut voir le psychologue, il faut voir les associations, car on est démunis, hein, mais il existe des traitements. Les corticoïdes, les immunosuppresseurs, la vitamine D et ses analogues, enfin, la photothérapie UVA, UVB, enfin le laser. Vous voyez, donc on a des solutions pour quand les taches dépigmentées de vitiligo ne sont pas trop importantes. On parle de Michael Jackson, mais oui, forcément, ça s'étendait partout. Et on se demande même si son chirurgien n'a pas aggravé, si vous voulez, le déblanchiment pour que son corps devienne complètement blanc. C'est une réponse qui n'en est pas une. Enfin, il existe la chirurgie, les greffes, la dépigmentation avec des produits chimiques à base de monobenzone, enfin bon, les gens comme Michael Jackson mettaient des cosmétiques pour protéger ses peaux blanches. Et j'en reviens à votre question, l'association, l'aide psychologique est indispensable, parce que ces gens-là ont besoin d'un soutien, sauf si les taches sont trop petites.
Tout à fait. Alors, justement, vous en parliez, il existe l'Association française du vitiligo, dont l'objectif est de regrouper les gens atteints de cette maladie, de les informer aussi des avancées médicales, c'est-à-dire de tout ce que vous venez de nous citer comme on va pas dire comme traitement, si, c'est un peu des traitements.
La possibilité de traitement.
Tout à fait. Et puis aussi de les défendre. Mais alors, cette association est surtout... être à l'écoute.
Oui. Alors, pour le moment, l'association est essentiellement parisienne. Quelques grandes villes commencent à avoir des centres, donc il faut bien se renseigner sur Internet, hein, et surtout bien dire aux gens, bon, les soutenir psychologiquement, mais qu'on a des possibilités, parce que le vitiligo, la plupart du temps, les taches sont un peu petites et segmentaires, ça ne se voit pas trop. Moi, chez mes patients, c'est un peu des mains, un peu des bras. Bon, des fois sur l'abdomen, et là, ça ne se voit pas. Donc, il y a des solutions de produits de beauté, ce qu'on appelle, hein, les cosmétiques, c'est tout simple. Hein. Et puis, après, on va dans la progression du traitement, de plus en plus, il faut faire très attention.
Mais justement, docteur, vous disiez que on ne peut pas guérir cette maladie, mais est-ce qu'on peut la stopper?
Oui, on peut la stopper dans sa progression, avec les traitements que l'on propose.
D'accord.
Notamment la vitamine D et les immunosuppresseurs. Et tout ce qui est dermatologique en photothérapie.
D'accord. Eh bien, docteur de Rognaucourt, merci de nous avoir éclairé sur cette maladie et surtout d'avoir peut-être changé le regard de certains. Parce que
oui,
là aussi...
parce qu'il ne faut pas désespérer. On a des solutions. Voilà le plus important. On a des solutions aussi bien d'accompagnement et surtout maintenant de traitement, on va dire, de limitation, pas de guérison.
Merci, docteur.
Je vous en prie, bon courage, bonne journée.
Très bonne journée à vous et très très bonne semaine.
Merci.
Et tout de suite après la petite page de publicité avec Kaléidoscope, et ce serait gentil de me tenir encore compagnie durant cette prochaine heure comme vous venez de le faire. À toutes et à tous, encore très très bonne matinée.